Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec cet épisode 12 du livre « D'un jardin à l'autre » écrit par Frédéric Baudin, nous allons terminer ce livre et ce sera la lecture du jour. En 17 chapitres, l'auteur nous a fait faire un long cheminement dans les pages et les paysages de la Bible, tout en gardant l'œil d'un jardinier qui nous fait aussi voir les lieux de notre vie actuelle. Commençons notre lecture. Les chrétiens portent-ils une responsabilité particulière dans le domaine de la préservation de l'environnement? Ils ont certainement commis des erreurs. Ils n'ont pas toujours été un modèle individuel et collectif de bonne gestion des ressources naturelles. Ils ont souvent contribué, au contraire, à les surexploiter. Nous avons également relevé les dérives d'une société outrageusement consumériste dans les pays de tradition chrétienne. Mais un bilan similaire pourrait être dressé pour diverses civilisations ou pour d'autres religions. L'Orient réputé si respectueux de la nature, à juste titre dans bien des cas, a fini par tomber dans les mêmes travers. Certaines idéologies politiques comme le communisme en Russie et dans le pays d'Europe de l'Est ont totalement négligé l'environnement. La situation écologique de ces régions est souvent désastreuse. Elle présente de sérieux dangers pour les populations. Les chrétiens restent porteurs d'un projet de vie pour ce monde présent, même s'ils n'en ont pas toujours été les meilleurs témoins et loin s'en faut. Ils ne sont pas les seuls, bien sûr, mais ils ont une vision du monde, de leur prochain et de l'environnement, spécifique à la fois en un Dieu créateur qui s'est fait homme et qui a parcouru les chemins de la terre. Leur christocentrisme leur permet d'éviter le piège et l'anthropocentrisme forcené des philosophies immanentistes contemporaines. Ils rejettent vigoureusement le biocentrisme des postmodernes, en particulier des partisans de la deep ecology, qui souhaiteraient changer radicalement de paradigme. Selon eux, la biosphère se trouve au centre et l'être humain à la périphérie, simple électron insignifiant gravitant de façon éphémère autour de la Terre qui le devance dans le temps et lui survivra. Où donc peuvent mener ces idolâtries modernes qui pensent trouver du sens dans l'être humain seul ou qui en déplacent l'origine et la fin? Pire, certains ont nié tout sens à la vie. Cette absence est parfois même comprise comme un nouveau sens absurde. Confiants et sereins, si possible, les chrétiens contemplent la révélation des origines et la flèche du temps terrestre. Ils plongent leur regard dans l'histoire de l'humanité comme dans celle de la longue marche de l'Église, qu'ils ne comprennent pas toujours l'une et l'autre. Ils ne cherchent pas nécessairement à justifier les errances passées ou présentes de ce corps spirituel auquel ils se rattachent. Ils savent qu'au lieu d'arborer les fruits de l'esprit, les chrétiens ont souvent cultivé et entretenu les fruits de la chair, les désirs insensés, contraires à l'amour vrai de la nature humaine livrée au mal. Paul en dresse également une liste dans sa lettre aux Galates, Galates 5, les versets 19 à 21. Dans cette énumération inquiétante et vertigineuse, on relève que les rivalités, les dissensions ou les divisions si fréquentes entre les chrétiens sont mises sur le même plan que l'idolâtrie, la débauche ou la sorcellerie. On sait, hélas, quels fruits d'amertume, d'incrédulité et d'apostasie ont produit les guerres, armées ou morales, et à toutes les échelles entre les chrétiens à travers les siècles. Les disciples de Jésus-Christ affrontent la part de réalité présente qu'ils embrassent à leur niveau. Ils s'étonnent et s'effraient parfois de ces hasards insaisissables. Ils ne perdent cependant pas la foi que Dieu leur confère sans reproche lorsqu'ils viennent à douter de son amour. Ils en appellent à sa clémence pour recevoir son soutien efficace. Ils se tournent enfin vers le monde futur, car ils croient que Dieu renouvellera un jour cette création. Ils peuvent ainsi comprendre que leur responsabilité actuelle n'est pas sans conséquence sur l'avenir. Les chrétiens savent qu'on ne peut tout miser sur ce monde pour en attendre le salut. Ils refusent de croire que l'homme sera capable d'établir le règne de Dieu sur terre grâce à son intelligence extraordinaire ou à sa technologie remarquable. Les mesures indispensables pour protéger la nature, pour assurer un développement durable et améliorer les conditions d'existence des êtres humains ne suffiront pas pour affronter l'implacable réalité du mal et surtout pour l'éradiquer. Souvent impopulaires, les disciples du Messie continuent de dénoncer l'utopie du progrès humain et matériel qui délivrerait la terre de ce mal ancré dans le cœur de l'homme. C'est sur ce point précis que la théologie sous-jacente du mouvement œcuménique « Justice, paix et sauvegarde de la création » inaugurée par le physicien von Weizsäcker révélait quelques faiblesses. Dans le domaine terre-à-terre de l'écologie, il nous faut rester vigilants pour ne pas considérer la protection de l'environnement, aussi nécessaire soit-elle, comme la panacée, le remède universel à notre condition humaine atteinte par le dard empoisonné du mal. Certains courants qui tendent à diviniser la nature n'échappent pas à cette tentation. Le mouvement du Nouvel Âge, de tendance panthéiste et syncrétiste, est très présent dans les milieux écologistes. Cette influence est parfois sensible jusque dans les rassemblements organisés par le Fonds mondial de la nature, WWF, et l'Alliance des religions et de la conservation, ARC. Une première manifestation de ce courant a eu lieu en marge du rassemblement interreligieux d'Assise en 1986. Il a pris une ampleur certaine, notamment lors du sommet de Katmandou en l'an 2000. En France, il se développe depuis les rassemblements interreligieux en 2001 au monastère orthodoxe de Solanes dans le Gard et au Mont-Saint-Michel en avril 2003. L'apport des différentes traditions religieuses sur la réflexion et la protection active de l'environnement est utile et souvent positif, mais le flou syncrétiste qui semble caractériser ces rencontres des représentants des grandes et petites religions augmente la confusion. L'écologie pourrait devenir une nouvelle idéologie de nature religieuse. C'est peut-être même la prochaine grande utopie universelle, assortie de son cortège mystique, mouvant et insaisissable. La foi chrétienne ne s'oppose pas pour autant au progrès ou à l'évolution des techniques qui nous procurent un certain confort. Mais ce confort peut être un piège dès lors qu'il nous conduit à ne plus reconnaître en Dieu notre Créateur, dont nous demeurons dépendants. Le confort et l'abondance tant désirés peuvent produire ces ronces et ces épines qui empêchent la plante semée par Dieu de germer et de se développer dans nos vies, comme le rappelle Jésus dans l'une de ses plus célèbres paraboles, Luc chapitre 8, les versets 5 à 18. Comme au temps de Moïse, la mise en garde demeure. La prospérité peut nous aveugler et nous donner l'illusion que notre pouvoir sur la création et sur les créatures est sans limite. L'annonce de l'Évangile, la conversion des hommes et des femmes à Dieu, un véritable changement de comportement dans tous les domaines de notre vie, peuvent atténuer les effets du mal, tant parmi les humains que dans la nature. La création tout entière sera ainsi mieux respectée. Mais nous savons que notre éthique de la création n'apportera qu'une amélioration partielle. Dieu seul reste souverain pour régénérer cette terre, pour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, nous est-il dit. Cela ne doit pas nous empêcher de combattre le mal sous toutes ses formes et d'être sensibles au bien-être de ceux qui nous entourent, comme à notre environnement naturel, dans une authentique perspective chrétienne, en communion avec Dieu. Jésus a encouragé ses disciples à rester sensibles aux besoins des plus faibles, des plus pauvres, de ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine ou la cause de leur défaillance. Les scientifiques chrétiens peuvent participer activement à toute étude ou action entreprise pour guérir les maladies, prévenir les épidémies et les aléas de cette terre vivante qui surprend par l'ampleur et la puissance de ses mouvements tectoniques ou atmosphériques. Ils peuvent inciter les pouvoirs publics à prendre les mesures nécessaires, légales et financières, pour tenter de contrer ces effets les plus indésirables et protéger les populations. Dieu n'est pas étranger à cette création, et moins encore à ses créatures. La Bible mentionne plus d'une soixantaine de plantes cultivées ou sauvages. Les plantes et les animaux apparaissent souvent comme des métaphores, des images pour nous montrer un exemple à suivre. L'activité et la prévoyance des fourmis, la confiance des oiseaux pour trouver leur nourriture quotidienne, la moisson qui blanchit ou la vigne prête pour la vendange, le bon grain est livré. Dieu se met à la portée des hommes. Il se révèle dans leur histoire, dans leur temps et dans leur espace. Le Seigneur est venu en homme parmi les hommes sans cesser d'être Dieu. Il a partagé avec nous notre condition. Il a vécu comme un homme. Il a dû se vêtir, se chauffer, s'abriter des intempéries en utilisant les ressources de cette création, le bois pour se chauffer, les céréales, les légumes, les fruits et les animaux pour manger. Nous sommes encouragés à bien jardiner cette terre où hommes et femmes, chante le psalmiste, vieillards, jeunes et enfants, rois et serviteurs, princes, juges et peuples, oiseaux et reptiles, océans et poissons, arbres, fleurs et fruits, vent, neige et brouillard, soleil et lune, montagnes et collines participent, comme les kéroubim, à la louange qui retentit en l'honneur du Créateur. Psaume 148. Prendre soin de la création, cultiver et garder ainsi le jardin du ciel et de la terre, servir nos semblables dans ce monde, respecter les animaux et les plantes que l'on utilise ou consomme, économiser nos ressources naturelles, c'est aussi une façon d'aimer Dieu et notre prochain. Pour bien connaître le monde et les êtres qui nous entourent, pour leur donner un nom qui nous devienne cher et les aimer ainsi au point de vouloir les protéger à tout prix, la patience est indispensable. Il nous faut apprivoiser le temps présent et ne plus nous laisser asservir par des exigences tyranniques, rendues plus implacables encore par les contraintes économiques. Une seule vie nous est donnée. Dans sa fugacité et son épaisseur, nous devons en saisir les dons et leur redonner sens dans la foi en Dieu qui domine le temps et le mène à sa fin, qui nous offre le repos. C'est notre vocation. Depuis le premier jour. Comme le laboureur cependant fixe l'horizon du sillon qu'il parcourt, nos regards restent résolument tournés vers l'avenir, vers l'avènement du Seigneur, aussi certain que l'aurore du lendemain. Ce jour marquera aussi un commencement. Lorsque le jardin du ciel descendra sur cette terre pour l'éternité. Chapitre 17. Le jardin du ciel sur la terre. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait: maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse, chapitre 21, les versets 1 à 4. Il nous faut enfin considérer, comme de loin, le jardin vers lequel nous cheminons. Nous ne le voyons qu'en partie, nous l'apercevons par la foi. Il focalise notre attention. Là est notre espérance. Ce jardin est situé au sein d'une ville construite par Dieu lui-même, dans la nouvelle Jérusalem que les prophètes ont déjà entrevue entre deux bras d'un fleuve dont la source jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Il se réduit très symboliquement à un seul arbre, produisant 12 récoltes de fruits par an. Ses feuilles ont la vertu de guérir les peuples. Le prophète Ézéchiel, en son temps, l'avait déjà dépeint. Dans sa vision, le fleuve qui coule du temple de Jérusalem irrigue le pays jusqu'à la mer morte. Le lac salé retrouve alors sa douceur. Il redevient poissonneux. Sur les rivages de cette verdoyante vallée de Sodome, régénérée par le fleuve divin, poussent des arbres fruitiers prolifiques aux feuilles médicinales. Ézéchiel 47, les versets 1 à 13. Dans la Nouvelle Jérusalem, le regard vient naturellement à se poser sur le jardinier du ciel, non avec la crainte de Marie et de ses compagnes dans le jardin de la tombe, mais avec joie dans la paix. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit règnent de nouveau, sans partage. Il est à la fois l'astre qui éclaire, la source d'eau vive et l'arbre de vie. La communion avec le Seigneur est sans obstacle. Cette ville est un jardin bien irrigué, fertile et fructueux, un jardin où l'on ne verse plus de larmes, où l'on vit éternellement. Cette espérance messianique doit paraître bien étrange, naïve peut-être, insensée même pour nos contemporains, mais elle est, avec la foi et l'amour, l'un des sommets spirituels de la vie chrétienne. La création tout entière soupire après ce dévoilement de la grâce de Dieu. Elle attend la recréation finale, source de repos et de vie. La restauration annoncée par les prophètes et confirmée par les apôtres. Les noces entre Dieu et la terre, dans la Jérusalem qui descend du ciel. Ésaïe 62, 4, Romains 8, 18, 23 et Apocalypse 21, 2. Ces images évoquent le renouvellement que Dieu va opérer pour l'ensemble de cette création, lorsque dans ce ciel sur la terre, dans cette cité-jardin, le peuple de Dieu jouira d'une union parfaite avec son Seigneur. Des relations justes et harmonieuses seront alors rétablies entre les créatures et la création ainsi régénérée. Ce renouveau divin dépasse de très loin le désir infantile de réenchanter le monde, comme on l'entend de nos jours, par une magie toute humaine dont les effets restent éphémères et imparfaits. Le livre de l'Apocalypse nous est précieux. Il dévoile une partie du tableau où sont dépeints et s'entremêlent tous les siècles mouvementés de notre histoire, du commencement jusqu'à la fin, qui n'est encore que le commencement d'une vie sans fin. En grec, le mot « apocalypse » signifie « révélation », comme l'ont si bien traduit littéralement les anglo-saxons. En français, le mot paraît plus étrange. Il évoque davantage les catastrophes décrites dans ce livre que la révélation du Fils de Dieu lors de son retour glorieux et visible par toute la terre. Mais il est vrai que cette révélation finale est précédée d'une longue aventure humaine émaillée de joie et de malheur, traversée de ténèbres et de lumière. Dans ce livre, c'est toute l'histoire des jardins du ciel et de la terre qui est retracée, de la création de Dieu et de ses contrefaçons diaboliques, des semailles où pointent l'espoir et la joie de la moisson et des vendanges lorsque se déchaîne la colère de l'agneau contre le mal et ses promoteurs. L'apôtre Jean, qui rédige ce livre, semble dépassé par ces événements et ces images que l'ange de Dieu lui expose. Il s'effraie, il pleure, il se réjouit sans doute en écrivant ces lignes souvent incompréhensibles qu'il vit intensément, comme s'il était témoin de tout ce qui arrive dans ce monde, hier, aujourd'hui, demain. Il sait désormais que dans le jardin du ciel sur la terre, la lumière va l'emporter définitivement sur la nuit. Dans la ville arborée où il est transporté pour le temps d'une vision, il contemple le Messie. Jésus est le souverain prêtre qui a traversé le temple du ciel. Il a parcouru les cieux jusqu'à la terre pour venir expier le péché des hommes. Il est l'agneau de la Pâque immolé sur l'autel et le lion de Juda ressuscité, régnant au siècle des siècles, assis à la droite de son Père. Le Messie est la lumière, le chandelier qui éclaire son peuple innombrable. Sa présence apaise tous ceux qui se placent sous son regard lumineux. Mieux encore, Jésus est le temple lui-même, le lieu où Dieu se révèle, l'édifice renversé par la main des hommes, mais qu'il a rebâti en 3 jours, Jean 2, versets 19 à 22, ou Apocalypse 21, 22. Il en est la pierre angulaire posée avec amour par son Père et sur laquelle tout repose. Sous ce temple coule une eau vive. Jésus en est encore la source, comme il l'avait affirmé un jour à la Samaritaine et lors de la fête des tentes à Jérusalem, où l'eau tenait alors une place toute particulière dans les rites de purification. Dans la Jérusalem d'en bas, comme dans celle d'en haut, il invite donc tous ceux qui le désirent à se désaltérer, car il est la source qui peut étancher la soif de quiconque vient à lui. Cette eau est abondante, pure et gratuite, que nul ne s'en prive, écrivait déjà le prophète Ésaïe, Ésaïe 55.1 ou bien Jean 4, Apocalypse 22.17. Elle irrigue l'arbre de vie, l'olivier planté par Dieu, coupé par les jardiniers insensés, mais un rejet est bientôt sorti de cette souche abandonnée dans le désert. Il profite de cette eau qui le ranime. Le Messie est l'arbre de vie qui remplit le monde de ses fruits. Jésus est la parole de Dieu. Sa voix est semblable à celle de grandes eaux. Elle s'écoule et retentit par toute la terre. L'expression « grandes eaux » revient fréquemment dans la Bible. Elle est souvent associée à la souveraineté de Dieu qui s'exerce même sur les eaux déchaînées ou les étendues marines profondes et infinies. Le prophète Ézéchiel utilise cette métaphore pour évoquer la voix de Dieu, Apocalypse 1, verset 15 ou Ézéchiel 43, verset 2. Mais Jean précise qu'il entend la voix du ciel comme le son de musiciens jouant de la harpe. Il ajoute que les hommes et les femmes qui assistent à ce dévoilement, à cette victoire définitive sur le mal et la mort, font entendre eux aussi leur voix semblable à celle de grandes eaux, Apocalypse 19, verset 6. La parole de Dieu et celle des hommes se rejoignent alors dans cette symphonie du nouveau monde qui marque le couronnement de l'alliance de Dieu avec les hommes. Le concert aux tonalités et aux couleurs de l'eau éclairée par la lumière divine est semblable à un arc-en-ciel aux variations infinies. Jésus est l'époux qui se réjouit d'inviter son épouse au repas de noces, à la fête de la moisson. Les fiançailles ont été longues, la fiancée s'est impatientée. Ses regards ont parfois glissé sur d'autres prétendants. Elle a regretté les jardins suspendus de la luxuriante Babylone, les fruits et les légumes de l'Égypte. Malgré les soins les plus attentifs, sa beauté s'est flétrie. Elle a été tentée de s'installer pour de bon sur la terre, sans plus chercher à plaire à son fiancé. Un pas de plus sur le côté, et elle eut trouvé un autre mari, rival du Christ qu'il cherche à imiter pour retourner dans le pays de l'esclavage. Mais le bon fiancé ne l'a pas oubliée. Il la surveille avec amour, il la garde avec vigilance, il ne sommeille ni ne dort pendant qu'elle court la terre. Il la voit déjà parée des plus beaux atours, gracieuse et sans une seule ride, revêtue de cette robe immaculée qu'il a acquise pour la lui offrir au prix de sa vie. Bientôt, les noces auront enfin lieu, les époux seront unis, ils échangeront pour toujours leur nouvelle alliance, ils célébreront dignement cette fête dans la joie. Jean voit, cependant, en contrebas du trône de l'agneau, les témoins martyrs qui attendent encore leur complète délivrance, les saints dont les prières montent vers Dieu comme un parfum agréable. Ceux-là aussi se reconnaissent comme l'épouse du Christ. Ils lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau qui a la vertu inhabituelle pour ce liquide de purifier et blanchir les fautes les plus sales, les péchés les plus résistants. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont donnée avec foi pour témoigner de l'amour indéfectible du Messie. Leur parole était forte, elle retentissait en tout lieu, mais leur conduite était douce, propre à donner la vie. On n'oubliera pas, dans la Jérusalem qui descend d'en haut sur la terre, la mort de ceux qui suivent l'agneau. Il est aussi leur berger et il écoute sa voix. Et ils écoutent sa voix, quoi qu'il leur en coûte. À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu ? Demande Jésus à ses disciples. À une semence, la plus petite, une graine de moutarde par exemple, ou de blé. On la jette en terre. Le germe se nourrit des réserves de la graine qui se dessèche bientôt et meurt. Puis la plante, désormais enracinée, se développe, s'épanouit, devient un refuge pour les oiseaux, produit 100 grains pour un seul semé. Luc 13, verset 18-19 et Jean 12, 24. Dieu n'est pas insensible à la mort de ceux qu'il aime lorsqu'ils renoncent à l'un de leurs privilèges par amour pour lui et pour leur prochain. Ces morts quotidiennes de ses enfants sont autant de semences de vie qui se développent sur le terreau de l'humilité. La prière accompagne leur croissance. Il est bon de se recueillir pour enrichir le sol et porter plus de fruits. Les martyrs chrétiens qui ont payé de leur vie la confession de leur foi en Jésus-Christ, hier dans l'Empire romain comme aujourd'hui encore dans certains pays, ont littéralement fécondé les futurs croyants qui furent ainsi convaincus de la vérité. Rien à voir ici avec les croisés ou les kamikazes de tous les temps qui pensent mourir pour Dieu en semant la mort. Leurs fruits vénéneux, mortels, amers, ne peuvent témoigner de la vérité et de la vie du chemin qui mène à Dieu. Rien à voir non plus avec l'homme moderne qui se sent désormais apte à se passer de Dieu pour cultiver l'arbre de vie et les fruits de l'amour. Nous le voyons déjà, Narcisse invétéré, se développer dans notre culture égocentrique. Il contemple son moi et se prosterne devant lui-même. Le miroir dévorant qui renvoie son image défigurée finira par l'absorber tout entier. La fleur gracieuse des origines mutera en plante carnivore. Le jardin est le reflet de celui qui le cultive. L'homme sans Dieu, rayonnant de sa propre gloire, peut transformer le jardin des délices en jardin des supplices. Rien à voir enfin avec ces soldats modernes, revêtus de leur costume le plus élégant, qui montent à l'assaut des marchés babyloniens les mieux achalandés, où l'on vend de tout, et même des âmes, des esclaves humains. Apocalypse 18, le verset 13. Leur quête frénétique de l'abondance a pénétré l'Église, où l'on a entendu parfois que seule la prospérité dans ce monde témoignait de la bénédiction de Dieu envers ses fidèles. Si Dieu nous rend prospères, c'est pour que l'on se montre plus généreux encore. Mais on sait aussi que les plus démunis des enfants du Seigneur peuvent enrichir d'une autre manière ceux qui les entourent. Parmi les héros de la foi cités dans la lettre aux Hébreux figurent des hommes et des femmes qui ont erré dans le désert de ce monde, dénués de tout, livrés injustement au plus cruel châtiment, le fouet, la prison, la mort. Dieu leur réserve le meilleur pour la fin. Voir Hébreux chapitre 11. La vérité et la vie se trouvent en Dieu, en l'amour d'un père qui donne la vie à ses enfants, dans l'altérité qui régit leurs relations avec leurs semblables. Le fruit des fils et des filles de ce père demeure savoureux sur la terre. Puissent tous les témoins de Jésus-Christ, riches ou pauvres, lancer ainsi leurs grenades aux mille semences de vie sur les places publiques. Ce fruit annonce la guérison, l'accès retrouvé à l'arbre de vie dont les feuilles aseptisent les plaies purulentes des peuples. En écho au vent de la Pentecôte, on entend aujourd'hui encore la clameur formidable de l'Évangile, ce cri de délivrance qui parcourt la terre. Enfin, dans le monde entrevu par Jean, dans le jardin régénéré par la parole de Dieu, il n'y a plus de mer. La victoire sur le chaos, sur le mal et sur le diable qui le propage est totale. La mer, ces démons et la prostituée qui les commandent ne sont plus une menace pour personne. En revanche, une mer de cristal entoure le trône de Dieu. Elle contraste avec les océans et leurs marées noires où les cours d'eau pollués du monde livrés au mal et la mauvaise gestion des hommes. À travers cette mer cristalline, le peuple de Dieu peut enfin contempler son Créateur. Il ne vit plus par la foi. Aucun obstacle ne subsiste qui pourrait l'empêcher de voir son Seigneur et de vivre en communion avec lui dans un nouvel Éden, une nouvelle création. D'un jardin à l'autre, dans la Bible, nous découvrons que le tout autre se rend accessible. Nous avions perdu les traces du jardin de Dieu après que nous en avions été exclus. Nous sommes dans un jardin dégradé, mal entretenu, un champ où l'ivraie se mêle au bon grain, un terrain vague où croissent des fleurs au milieu des ronces et des épines. Mais Jésus a visité ce jardin. Il a embaumé de sa présence. Il a pénétré avec nous dans le jardin de la souffrance et de la mort, pour nous attendre dans le jardin de la résurrection. Là, il nous tend la main, il sème en nous la vie et la paix. Nous cheminons enfin vers un jardin, un lieu infini où la vie est éternelle, une cité où notre Créateur est comme un arbre verdoyant en toute saison. Cet arbre est à lui seul toute une forêt. Ses fruits donnent la vie et ses feuilles guérissent les peuples. En attendant de pénétrer définitivement dans le jardin du ciel sur la terre, grâce à la mort et à la résurrection du divin jardinier, nous sommes appelés à vivre sous le règne du Seigneur et à devenir ainsi un jardin où notre prochain pourra redécouvrir l'amour de Dieu et sa présence bienfaisante. Nous pouvons nourrir notre espérance en cultivant les fruits de l'Esprit qui se développent à mesure que s'approfondisse notre communion avec Dieu. Nous pouvons aussi cultiver et garder cette terre, protéger et prendre soin de ce que le Seigneur considère toujours, malgré les ronces et les épines, comme une création bonne. L'annonce de la vie offerte par Dieu aux hommes et aux femmes qui nous entourent, nos gestes en leur faveur et pour leur bien, la protection des ressources et la diversité de la nature. Notre foi et nos actes seront alors comme un signe du règne de Dieu à venir, du jardin de l'amour cultivé et agrémenté avec soin pour célébrer les noces de l'agneau. À l'époux qui patiente encore, cependant, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Avec cet épisode 12 du livre « D'un jardin à l'autre » écrit par Frédéric Baudin, nous allons terminer cette lecture. Et pour prendre une conclusion, je vais utiliser la liste des jardins que nous avons dans lequel nous avons cheminé. Nous sommes partis du jardin des délices, l'Éden, pour aller dans le jardin sans Dieu, le jardin d'Égypte, le jardin du désert, le jardin de la loi, du temple, de la fête, le jardin promis. Puis nous avons trouvé le jardin de la terre, à cultiver, à garder, à gérer. Le jardin de l'amour, le jardin de la souffrance, le jardin de la tombe et de la résurrection, le jardin de l'olivier, et enfin, le jardin du ciel et de la terre, suivi par le jardin du ciel sur la terre. N'oubliez pas, vous pouvez réécouter ces textes sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM, et écouter aussi le texte lui-même sur le podcast de notre site. Au revoir, chers amis, et au prochain livre.